Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème organisation des grands événements au Niger, quel apport pour le Niger et son peuple. Le Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, selon ses initiateurs, a pour objectif de promouvoir la consommation des produits artisanaux par la femme et pour la femme, mais surtout de doter le Niger d'un cadre de promotion des produits artisanaux africains mettant l'accent sur la femme. Le Salon international d'information sur le développement au Niger SANID vise à promouvoir les actions de développement engagées par toutes les institutions, associations, ONG et sociétés au Niger grâce à une plateforme de communication directe entre ces acteurs de développement et les citoyens afin de favoriser la mobilisation et l'engagement de ces populations en faveur des objectifs de réduction de la pauvreté d'ici 2030. Avec nos invités, nous allons parler des apports de toutes ces activités pour l'économie, l'image du pays, mais aussi pour les Nigériens. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Mahamadou Yakouba, chef du département organisation du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM. Mahamadou Yakouba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Et Salim Zangina, promoteur du Salon international d'information sur le développement au Niger, SANID. Salim Zangina, bonsoir.
Bonsoir, Mokhtar.
Au microphone, Mokhtar Hamadou. Mahamadou Yakouba, quels sont les défis du Niger en matière de l'organisation d'un grand événement comme le SAFEM?
Merci beaucoup, M. Mokhtar. Je voudrais, avant de répondre à votre question, vous remercier très sincèrement pour l'occasion que vous nous donnez de venir en tout cas nous exprimer, n'est-ce pas, et faire comprendre aux Nigériens vraiment ce que c'est que le SAFEM et ce que nous visons et ce que nous faisons. Pour revenir à votre question, notre défi est vraiment c'est de répondre à l'attente des milliers et des milliers d'exposants, n'est-ce pas, que le Niger accueille tous les deux ans à l'occasion des différentes éditions du Salon international de l'artisanat et pour la femme. Maintenant, bien entendu, les défis sont nombreux. Il y a des défis, comme vous l'avez dit, économiques, n'est-ce pas, et qu'il faut relever. Il y a d'autres défis que nous allons certainement voir au fil de notre entretien. Mais pour le moment, en tout cas, le défi principal pour nous, au niveau de l'agence SAFEM, c'est de satisfaire les milliers d'exposants, les milliers de visiteurs que nous accueillons, en tout cas à l'occasion, comme je l'ai dit tantôt, à l'occasion des différentes éditions.
Mahamadou Yakouba, est-ce que c'est aussi un défi pour le pays, le Niger?
C'est extrêmement important aujourd'hui dans la mondialisation, dans la sphère géographique dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que en Afrique occidentale, tous les pays, je dis pratiquement tous les pays de l'Afrique occidentale, sont en train de développer, en tout cas, soit des salons, soit des foires, parfois annuelles, parfois biannuelles. Et il y a une certaine concurrence, n'est-ce pas, qui est en train de se développer, qui, si le Niger ne prend pas garde, en tout cas, nous risquerons de nous retrouver, en tout cas, vraiment à la queue de cette chaîne. Et malheureusement, ça devrait être un défi, pas pour nous en tant qu'agence du Salon international de l'artisanat pour la femme, ça devrait être un défi pour le Niger tout entier. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis et très sincèrement, il y a un gros problème au niveau du SAFEM qui fait en sorte que nous, SAFEM, on ne peut pas relever ce grand défi que nous avons en face de nous. Parce que nous avons un problème de site. C'est le gros problème du site. Or, aujourd'hui, tous les salons, toutes les foires internationales disposent d'un site qui répond vraiment à l'attente des exposants, qui répond à l'attente de ce marché. Parce qu'un marché international...
Mahamadou Yacouba, oui. Vous avez quand même eu à faire 10 éditions. 10 éditions, c'est déjà beaucoup pour avoir un site.
Merci de nous donner, n'est-ce pas, l'occasion de relater un peu, n'est-ce pas, l'historique de la tenue de ces 10 éditions qui se sont succédées. La première édition du SAFEM a eu lieu en 2000. Aujourd'hui, ça fait 19 ans. Et au Musée National Boubouhama de Niamey. L'année suivante, en 2001 déjà, avec tout ce qu'on a reçu comme réservation, comme engouement, déjà le musée est devenu petit pour accueillir le Salon international de l'artisanat pour la femme. Ce qui a fait qu'en 2001 déjà, le salon a été ramené au niveau du village artisanal de Ouadata. De 45 stands, nous sommes passés à 150, 170 stands. Et à partir d'un certain moment, plus particulièrement à partir de 2013, le village artisanal est devenu aussi exigu pour accueillir l'édition. On a réfléchi, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a pensé au palais du 29G. Et le SAFEM s'est encore transporté au niveau du palais du 29G. Aujourd'hui, je vous dis sincèrement et en toute honnêteté, même le palais du 29G est devenu encore exigu pour contenir le SAFEM. Faites un tour. Quand nous aurons tous la chance, la vie et la santé de voir la prochaine édition, vous allez voir comment il y a une certaine promiscuité au niveau du site, n'est-ce pas? Ce qui ampute un peu cette expression du salon international, parce que le salon international a des exigences. Il y a plusieurs facteurs qui sont, et le premier facteur, c'est le site, et nous ne disposons pas de ce site-là aujourd'hui. Même le palais est devenu petit aujourd'hui. La dernière fois, nous avons mis un peu plus de 400 stands. Mais il fallait voir comment c'était mélangé. Et ça, c'est un défi, je vous dis, je le répète, que nous, en tant que sa femme, nous ne pouvons pas relever. Et là, il faut que les autorités compétentes, en tout cas, y mettent la main à la pâte, en tout cas, pour faire en sorte que vraiment, que le Niger puisse entretenir comme il faut, vraiment, ce joyau que nous disposons aujourd'hui et qui fait la fierté du Niger. Aujourd'hui, visitez un peu le tour des pays de l'Afrique occidentale et même des autres. Vous parlez du SAFEM. Tout de suite, on sait que le SAFEM appartient au Niger et que le SAFEM, c'est une manifestation des femmes qui appartient. Et c'est ça qui fait la particularité. Et c'est ça notre chance aujourd'hui. C'est parce que le SAFEM a comme particularité la femme. Et si on ne fait pas attention, il y a d'autres pays qui sont en train de nous guetter, qui sont là, qui attendent dès qu'il y a une faille, et ils ne vont pas hésiter à s'emparer, en tout cas, de ce salon-là qui fait l'honneur du Niger aujourd'hui.
Mahamadou Yacouba, depuis l'institution du SAFEM, le Niger a eu à organiser 10 éditions. Quel apport pour l'économie nationale?
Effectivement, je disais tout à l'heure que si nous avons la chance, la vie et la santé de voir la prochaine édition, en tout cas, je vous invite à faire un tour. Vous allez constater tout autour du SAFEM, même pas à l'intérieur du site, tout autour du site, il y a un engouement qui est là, qui se développe. Les transporteurs, les taximans, ils arrivent à avoir, en tout cas, à s'en sortir. Les hôteliers arrivent à s'en sortir. Les restaurateurs arrivent à s'en sortir. En tout cas, il y a beaucoup de secteurs, en tout cas, surtout le secteur au niveau du secteur tertiaire, où vraiment il y a un engouement et vraiment c'est extrêmement important. Au niveau du site même, pendant les 10 jours d'exposition, il y a un échange qui se fait. Au-delà de l'achat de vente et d'achat des produits artisanaux, il y a un échange qui se développe entre les différents exposants des différents pays qui se retrouvent sur le site. À la dernière édition, nous avons accueilli 24 pays, dont le Pakistan, la Tunisie, le Maroc, Mauritanie, l'Égypte, tout ça. Et après, à la fin du salon, il y a un échange qui se développe entre les différents exposants. Donc, ils échangent une sorte de troc qu'ils font entre eux, et c'est des échanges de cartes de visite. Cet élément important qu'on ne voit pas tout de suite, c'est-à-dire après l'exposition, après l'édition, ces échanges-là continuent encore. C'est-à-dire nos exposants qui ont échangé des cartes de visite avec les autres continuent à échanger, à vendre encore sur le plan international à travers, en tout cas, les vraiment, ils font un échange extrêmement important. Mais qui n'est pas visible, mais que nous savons parce que nous vivons avec eux sur le site. Et cet élément est caché parce que tout simplement, il y a un problème. Je disais qu'on a un problème de site. Quelqu'un qui a un problème de site, la salle de communication, ça c'est clair qu'on n'en dispose pas. C'est des éléments. On pouvait organiser tout ça. Mais je vous dis, à la date d'aujourd'hui, ces échanges dont vous parlez existent, mais il est caché parce qu'il n'y a pas les outils qui nous permettent de dire voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, je l'ai dit comme ça, mais tout celui qui a eu l'occasion de participer aux différentes éditions du SAFAM savent qu'il y a en tout cas des échanges qui se font et qui ne sont pas visibles.
Salim Zangina, est-il facile aujourd'hui d'organiser un grand événement au Niger?
Merci pour cette question, Mokhtar. Je dirais d'abord que, pour compléter mon frère, c'est que ces événements d'abord offrent en fait des vitrines au Niger. C'est-à-dire que ce sont des événements qui sont quelque part comme des ambassadeurs. Parce qu'à travers ces événements-là, on a un peu une sorte de vue sur notre pays. Voilà pourquoi d'abord ces événements sont importants. Maintenant, quant à savoir si est-ce que ces événements sont faciles, évidemment non. Évidemment non, parce que l'environnement, on va dire, au Niger, souvent ne permet pas aisément d'organiser ces événements-là. Lorsque vous décidez d'initier de tels événements, tels que le SAFEM, tels que le SANID, le premier défi que vous avez, d'abord, c'est le défi financier. Parce que pour organiser un événement, eh bien, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, on a recours souvent au sponsoring.
L'État n'accompagne pas ?
Alors, il arrive que l'État accompagne, mais quand bien même l'État accompagnerait, en fait, l'apport de l'État souvent ne couvre pas toutes les charges. Donc, du coup, il faut se lancer dans la quête de financement auprès donc des entreprises, des sociétés, etc. Et là aussi, ce n'est pas évident. Ce sont des sociétés qui ont souvent le devoir donc d'accompagner ce genre d'initiative-là au nom de leur responsabilité sociale. Mais il arrive qu'il y ait là aussi des blocages. Donc il faut vraiment faire des pieds et des mains pour pouvoir dégoter des financements. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'un événement se vend. C'est-à-dire que la première chose qui est importante dans l'événementiel, c'est d'abord le concept. C'est ce que mon frère a dit. C'est-à-dire que on ne décrète pas qu'un événement est un grand événement par soi-même. Non, c'est le concept de l'événement qui fait que c'est un grand événement. Lorsque vous prenez par exemple le SAFEM, effectivement, le fait que la femme soit au cœur de l'événement, ça en fait déjà un événement majeur. Ensuite, le fait que ce soit un événement qui va promouvoir l'autonomisation des femmes, eh bien, ça rend encore cet événement beaucoup plus important parce que cette thématique-là est d'actualité. La même chose pour le SANID, le Salon d'information sur le développement. Ce sont une dizaine de ministères issus des secteurs prioritaires de développement qui se rassemblent une fois l'année et qui rendent compte aux citoyens et aux journalistes d'ailleurs aussi. Donc c'est d'importance parce que bien souvent, ce devoir de compte rendu-là, nos institutions publiques républicaines ne l'ont pas toujours. Ils ne comprennent pas toujours qu'il faut venir vers le citoyen et l'informer de ce que vous avez fait. Cela pour non seulement recueillir les avis de ces citoyens-là que vous êtes censés servir, mais aussi pour même contribuer à une sorte d'apaisement, d'accalmie, voilà, sociale. Puisque quand quelqu'un est informé sur ce qui se passe, eh bien, cette personne-là est plus rassurée. Donc, je dois dire que ce n'est pas facile, vraiment. C'est un monde dans lequel il faut user de beaucoup de sens d'organisation, hein, parce que il faut être très bien organisé, il faut avoir un carnet d'adresses très fourni, il faut avoir une approche auprès des partenaires qui est une approche, on va dire, vraiment une approche très diplomatique, une approche très, très efficace, parce qu'il ne suffit pas juste de venir devant le partenaire, j'ai cet événement que je veux organiser, donnez-moi l'argent. Non, il faut vraiment avoir des qualités, des dons vraiment de quelqu'un qui convainc à travers des arguments pertinents et qui montre au partenaire qu'il a également quelque chose à gagner à venir dans cet événement-là. La visibilité parfois, ou bien une communication que le partenaire aimerait faire dans l'événement. Donc c'est vraiment tous ces atouts-là qu'il faut savoir aligner et ajouter à cela maintenant effectivement l'appui de l'État qui également aussi donc est déterminant puisque que ce soit de façon sur le plan pécunier que l'État appuie ou bien aussi parfois sur le plan juste de l'influence. Un ministre peut prendre son téléphone et décider que, bon, vu que par exemple je parraine l'événement, donc je vais appeler certains directeurs généraux pour les mobiliser afin qu'ils soutiennent l'événement. Donc vraiment le rôle de l'État est important, mais il faut également user de ses propres ressources parfois pour réussir. Donc ce n'est pas facile. c'est vraiment un challenge lorsqu'on termine des événements tels que le SAFEM ou le SANID. C'est, comme je le disais à un autre confrère, c'est vraiment un soulagement immense, vraiment.
Salim Salim Zangina, comment ces grands événements peuvent-ils contribuer à la création de richesses et d'emplois?
Alors, merci Mokhtar. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que ces événements, comme je le disais, ce sont d'abord des vitrines. De l'extérieur, parce qu'à travers les communications que nous faisons, vos reportages, vos couvertures médiatiques que vous faites pour nos événements, déjà, les échos de ces événements-là laissent transparaître également l'image du Niger. C'est-à-dire que dans le monde entier, on sait que telle chose se déroule au Niger et on découvre un pan, soit de la culture nigérienne, un pan de l'économie nigérienne, etc., etc. Donc c'est vraiment des événements qui reflètent une certaine vitrine du Niger. Mais deuxièmement, il faut aussi retenir que ce sont des événements qui créent des emplois temporaires. Parce que autant le SAFEM que le SANIT, vous avez des bâches qui sont installées pendant plusieurs jours, c'est de la location. Ça veut dire qu'on va donner de l'argent à un prestataire pour amener ces bâches-là. Vous avez
la sonorisation,
l'électricité. Vous avez vraiment toute cette logistique-là qui demande...
Même la confection des stands.
Même la confection des stands. Vous avez la décoration, vous avez les... Vraiment, c'est vraiment, on va dire, des montants parfois faramineux hein, qui sont décaissés pour donner cette organisation-là. Maintenant, vous avez également les comités d'organisation. Ça veut dire que vous avez souvent des jeunes qui sont employés pour faire des petits travaux. Ça, ce sont des emplois temporaires qui sont créés. Ça veut dire que économiquement, ces prestataires-là de services arrivent à tirer effectivement leur épingle du jeu à travers nos événements. Parce que bon, un prestataire sur le SAFEM qui dure, je crois, 2 semaines, le SANID qui dure bon 1 semaine, c'est, voilà, le prestataire déjà qui loue ses bâches, Dieu merci, ça va, il s'en sort. Donc, vous avez donc ces sous-emplois-là qui sont créés et ces prestataires qui sont également satisfaits. Mais le plus grand apport, je le maintiens quand même, c'est vraiment la promotion de l'image du Niger. Parce que l'événementiel aujourd'hui, Mokhtar, est devenu quelque chose de non négligeable dans tous les pays. Il l'a dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ou bien au Burkina Faso, ils sont très loin. Et d'ailleurs même, je voudrais souligner que le président nouvellement élu à Madagascar, après les élections qui viennent de se dérouler, Andry Rajoelina, en fait, a fait fortune dans l'événementiel. C'était un ancien DJ qui, petit à petit, a évolué pour organiser des soirées, ce genre d'événements-là. Et sa fortune a été bâtie sur l'événementiel. Et aujourd'hui, il est président de Madagascar, quand même. C'est pour dire que ce n'est pas un secteur négligeable. C'est vraiment un tremplin qui, lorsqu'il est bien utilisé, il peut permettre aux promoteurs ou aux comités d'organisation vraiment de décoller. Mais à condition, effectivement, de faire preuve de beaucoup de sérieux et de beaucoup de vision aussi. Parce qu'il y a des événements qui débutent. Première, deuxième édition, troisième édition, ils meurent ces événements-là. Donc il faut réussir à inscrire son événement dans le temps, en tenant compte aussi de l'adaptation. Parce qu'il faut l'adapter. Un événement peut débuter national, mais très tôt. À un certain moment, il faut comprendre qu'il faut maintenant l'internationaliser pour pouvoir un peu mobiliser beaucoup plus de ressources et d'attention sur l'événement.
Mahamadou Yakouba, quel changement pour ces femmes artisanes qui participent régulièrement au SAFEM?
Merci Mokhtar. Alors le changement qu'on constate, permettez-moi de revenir un peu en arrière par rapport à ces femmes qui participent au SAFEM. Et parce qu'il faut dire aussi que le SAFEM a fait aussi un travail en amont, n'est-ce pas, et par rapport aux éditions, par rapport aux femmes qui participent aussi au SAFEM. Alors, ces femmes, n'est-ce pas, et avant l'édition, parce que le SAFEM, vous l'avez dit dans votre introduction, qu'il contribue aussi, n'est-ce pas, à l'autonomisation socio-économique des femmes artisanes. Comment est-ce que le SAFEM participe à cette autonomisation? C'est des groupements de femmes, d'abord, que nous avons identifié dans les différentes régions du Niger et que nous accompagnons à travers des renforcements de leurs capacités techniques, entrepreneuriales et commerciales. Au début, nous avons eu tout le problème du monde, n'est-ce pas, pour mobiliser ces femmes-là. Parce que tout simplement, il y a une certaine réticence et même résistance, n'est-ce pas, des hommes en général que ce soit les maris, que ce soit les frères, que ce soit les pères. Alors, nous avons, je disais tout à l'heure que nous avons exécuté un travail, n'est-ce pas, en amont. Et c'est ce travail-là que nous avons mené d'abord. C'est le travail de sensibilisation et d'accompagnement de ces femmes et de ces maris. Ce qui a fait qu'au début, le SAFEM était là, mais le SAFEM était animé par les femmes des pays qui nous entourent. Parce que ces femmes-là, il faut le dire, il faut le reconnaître, elles ont une certaine avance, n'est-ce pas, en matière de mobilité par rapport à nos femmes. Alors nous avons compris très tôt cela et nous avons agi sur les femmes artisanes du Niger. Dans un premier temps, c'est extrêmement difficile. Il a été difficile pour nous de faire déplacer une femme, par exemple, de Diffa, de Toumour, pour l'amener à Niamey. Parce que c'est très compliqué. Les gens ne comprenaient pas. Suite à ce travail que le SAFEM a eu à mener, entre-temps, aujourd'hui, le SAFEM est animé en grande partie par les femmes artisanes des régions. Et déjà, il y a des femmes qui ont commencé à se positionner par rapport au SAFEM. Le changement, si ces femmes continuent, en tout cas, depuis un certain temps, à venir au SAFEM, c'est parce qu'elles y trouvent leur compte. Et le changement aujourd'hui, c'est que ces femmes artisanes aujourd'hui sont capables de se déplacer d'Nguingimi, de Toumour ou de Kirozérine pour aller jusqu'à Dakar, participer à une foire. Parce qu'on les a appris comment participer à une foire, comment participer,
le réseautage.
Et elles ont compris cela. Elles n'ont plus peur. Elles n'ont plus cette crainte-là. Et les maris ont compris. Et le changement, il y a un changement économique qui est là. Parce que lorsqu'une femme participe à un salon, comme le SAFEM, lorsqu'elle retourne dans son foyer, tout de suite, le constat est là. On sait que maman est revenue vraiment de Niamey, on sait que madame est revenue vraiment d'un salon. Parce que je disais tout à l'heure qu'il y a un certain changement, enfin, un certain échange que nous ne voyons pas. Elle est venue avec son tourant outa de Diffa. Même si elle n'a pas pu vendre pendant les 10 jours du SAFEM, pendant les deux derniers jours, c'est des échanges. Elle échange ces tourant outa-là contre les tissus d'Akawa, contre le bazin malien, contre le Danfani du Burkina Faso, et elle retourne avec. Donc, c'est extrêmement important, le changement économique. Il y a un changement culturel aussi, parce qu'elle a appris avec les autres femmes le fait qu'elle arrive, elle vient toujours au SAFEM. Elle a compris, elle a vu, elle a regardé les autres femmes, la femme togolaise, la femme béninoise, la femme burkinabé, comment elles font. Et ça aussi, c'est un changement positif, il faut le dire, parce que tout simplement, ces femmes arrivent à former nos femmes. Donc, c'est extrêmement important. Il y a aussi un changement dans l'éducation. Avant, la femme, elle prenait ses bagages, elle venait au SAFEM et elle remplissait son stand avec les bagages. Sans savoir qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Le changement aujourd'hui, avec que le SAFEM a pu apporter, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ont compris de quoi ont besoin les visiteurs. Ces femmes ont compris comment entretenir un stand. Ces femmes ont compris que l'art, ce n'est pas du n'importe quoi. L'art est important et l'art a des exigences. Et ces femmes-là ont compris qu'aujourd'hui, en tout cas, il faut respecter ces différents facteurs qui font de l'art ce qu'il est aujourd'hui. C'est extrêmement important. La femme, dans sa propre vie, n'est-ce pas, développe un certain changement. Et ça, vraiment, je le dis haut et fort, le SAFEM a contribué beaucoup, en tout cas, à cet état de fait.
Quelles sont les avancées palpables enregistrées par le Niger en matière d'organisation des grands événements?
Ce que je peux dire, hein, d'abord, c'est cette hospitalité qu'on connaît déjà. Parce que nous avons commencé avec deux pays, plus le Niger, trois pays. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure que nous avons accueilli 24 pays à la 10e édition. N'est-ce pas? Ce qui fait que c'est extrêmement important. Ce n'est pas rien.
Salim Sanguina, quelles sont les opportunités du Niger dans le domaine des grands événements? Est-ce qu'il y a des opportunités au Niger?
Il y a des opportunités immenses. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, moi je dirais que le nombre d'événements qui sont organisés, en réalité, le pourcentage est énormément minime par rapport à ce qui pourrait être fait. Sur le plan de l'événementiel, le Niger est un terrain mais totalement vierge encore. Vous avez tellement de salons qui pourraient occuper toute l'année. En réalité,
comment est-ce qu'on fixe un événement? Peut-être pour nos auditeurs ou nos auditrices qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans l'événement, moi je vais leur donner quelques astuces. Prenez tout simplement le calendrier sur Internet, un calendrier des Nations Unies, et vous allez voir les journées. Voilà, les journées qui sont consacrées par rapport peut-être à des événements, par rapport à des hommages rendus pour tel ou tel secteur. Et à partir de là, ça veut dire que vous avez autant de possibilités d'organiser des événements selon les dates. Vous avez les journées du sport féminin, les journées mondiales du sport féminin qui n'est pas exploité au Niger. Comment on peut m'expliquer qu'un pays majoritairement composé de femmes, jusqu'à présent personne n'a encore pensé à organiser une compétition à l'occasion de la journée mondiale du sport féminin. Vous avez des journées mais à n'en plus finir. Donc ça veut dire que le SAFEM autant que le SANIT ne sont qu'une infime goutte dans la mer d'événements qui pourraient être organisés dans ce pays. Je vous dis que c'est un secteur aujourd'hui qui est réellement porteur de potentialités énormes. C'est-à-dire que c'est un secteur qui, s'il est bien exploité, peut non seulement effectivement créer des emplois, apporter un plus aux prestataires, mais également aussi, quelque part, si vous voulez, développer les agences et les comités qui les organisent. Voilà pourquoi, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ce secteur-là, au niveau des... Parce que quel constat est-ce qu'on fait, Mokhtar? C'est que les agences qui ont aujourd'hui vocation à faire dans l'événementiel, en réalité, ne font pas de l'événementiel. La plupart, je ne dis pas toutes, mais la plupart des agences de communication, comme d'ailleurs la mienne, puisque c'est une agence de communication qui organise le SANIT, Émergence, Conseil et Communication, eh bien, la plupart de ces agences-là, quand elles ouvrent dans leur RCCM, leur registre de commerce, vous allez remarquer qu'il y a l'événementiel. Mais en réalité, ces agences-là ne font pas de l'événementiel. Elles se contentent de faire des banderoles, d'afficher, d'imprimer des banderoles pour le studio Kalangou, des banderoles pour telle institution qu'elles posent sur la façade de l'institution. Elles se contentent de faire de l'affichage public. Mais en réalité, ce ne sont pas des agences qui innovent dans l'événementiel. Et ou bien alors, même lorsqu'elles le font, c'est que elles ont été appelées par une société qui veut sous-traiter par elles. Mais aujourd'hui, les agences de communication ne créent pas d'événements. Et c'est ça qui est dommage. Parce que si, peut-être, les promoteurs de ces agences-là savaient ce dont recèlent ces événements-là, je pense que ces agences comprendraient que peut-être ce qu'elles font à travers leur activité n'est qu'une vraiment une petite part de ce qu'elles pourraient réellement gagner en organisant des événements. Donc les potentialités sont énorme. Vous avez un impact économique vraiment indubitable, vraiment indiscutable qui est là. Vous avez également un impact sur notre économie qui est également indiscutable, à condition vraiment d'occuper ce terrain-là. Le Niger est vierge. Vous n'avez pas d'événement. Vous avez en Côte d'Ivoire, ici à côté, le Salon du Livre qui est fait en début de rentrée scolaire pour permettre aux élèves et aux étudiants de venir acheter des cahiers moins chers, d'acheter leurs livres moins chers, qui permet de faire la promotion des écrivains. Pourtant, au Niger, mais qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Et tout à l'heure, mon frère parlait du fait que, d'ailleurs même, au lieu même d'avancer, d'ailleurs nous régressons. J'ai pour preuve le FESPACO. Le FESPACO est né au Niger. Le FESPACO est une initiative nigérienne, à la base. La première, même le CIAO, tout ça est né au Niger. Mais à cause du fait qu'on ne saisit pas l'importance de ces événements-là, ce sont des événements qui nous échappent. Aujourd'hui, le Burkina Faso, quand j'étais étudiant à Ouaga, j'ai été guichetier dans un cinéma. Pendant le FESPACO, je vendais des tickets d'entrée dans le cinéma pour un peu combler les fins de mois d'un étudiant. Mais c'est incroyable l'apport du FESPACO à l'économie burkinabé. Ce sont des sous-emplois que tu ne peux même pas imaginer. Non seulement les cinémas tirent leur compte, il y a les petits boulots comme ceux que moi j'ai fait, il y a également, à un niveau beaucoup plus élevé encore, d'autres apports. Et voilà. Mais le Niger a perdu le FESPACO, tout simplement parce qu'on n'a pas su accompagner cet événement-là comme l'a compris et le fait le gouvernement burkinabé. Là-bas, d'ailleurs, le premier prix du FESPACO est remis par le président du FASO. Pour vraiment marquer le fait que c'est un événement national. Le SAFEM, nos premières dames y participent, bravo à elles, mais il faudrait effectivement que le SAFEM soit carrément rattaché à la présidence de la République du Niger, pour que ce soit un événement qui soit parrainé au plus haut niveau. Donc c'est pour vraiment dire que voilà des pays, aujourd'hui le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, qui ont compris que l'événementiel pouvait effectivement apporter quelque chose économiquement, culturellement, à leur pays et qui l'exploite. Donc le Niger devrait aujourd'hui ne plus minimiser ces concepts-là que nous réalisons, que nous arrivons à concevoir, le SANID, le SAFEM, ce sont des concepts. Et quand on crée un concept, c'est important. Maintenant, le pays doit se saisir de ce concept-là et appuyer, pas pour le promoteur, parce que le promoteur, bon, c'est un individu, mais pour le pays, pour l'image du pays.
Salim Salim Zangina, le Niger dispose-t-il assez d'infrastructures pour accueillir certains grands événements?
Mon frère l'a dit, effectivement, sur ce plan-là, nous avons un problème. Il faut avouer que, dans en tout cas certains pays que nous avons visités, les foires ont leur site spécifique. C'est-à-dire que le SAFEM ou le SANID, normalement, n'ont pas à aller louer le palais des sports où on pourrait, mais l'idéal aurait été qu'il y ait un site qui soit là en permanence pour pouvoir accueillir ces événements-là. Donc, à une certaine envergure encore, ça va. Parce que quand peut-être c'est des événements bon, d'envergure nationale, encore on peut dire que bon, certaines de nos infrastructures nationales peuvent accueillir. Le palais des sports est là, l'académie des arts est là, le palais des congrès est là. Mais lorsqu'un événement atteint une dimension internationale où les participants s'inscrivent spontanément, c'est-à-dire que par exemple dans le cas du SAFEM, ce sont, comme il l'a dit, des entrepreneurs femmes qui s'inscrivent pour venir y participer. Ça veut dire que donc, on ne contrôle pas le nombre. C'est une inscription qui est ouverte. Si aujourd'hui, 2000 femmes à travers l'Afrique et le monde décident d'atterrir à Niamey, ah, vous conviendrez avec moi que nous avons du pain sur la planche. Nous allons avoir des problèmes. Donc, lorsqu'un événement atteint une envergure internationale, effectivement, il va se poser ce problème d'infrastructure. Le SANID, d'ailleurs, à partir de la troisième édition, s'internationalise pour toucher le G5 Sahel. Parce que, à partir de la troisième édition, ça sera donc le salon d'information sur le développement au Niger et dans le Sahel. Donc, à cette occasion également, il va se poser un problème. Parce qu'effectivement, est-ce que les infrastructures seront nécessaires pour accueillir les exposants venus des 5 pays du G5 Sahel, etc. Ce sont des questions que nous nous posons. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le Niger, à un certain niveau, ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour pouvoir promouvoir ce secteur de l'événementiel. Et comme je le redis encore, je pense que le ministère de la Culture, puisque c'est de cela peut-être qu'il relève, c'est de ce ministère qu'il relève, devrait vraiment promouvoir les infrastructures qui peuvent permettre d'accueillir ces grands événements-là que nous promouvons.
Mahamadou Yakouba, le SAFEM est bien connu sur le plan national et international, vous l'avez rappelé. L'insécurité dans certains pays de la sous-région ouest africaine n'est-elle pas un frein pour sa promotion?
Merci beaucoup, Monsieur Mokhtar. Je voudrais juste revenir un peu en arrière, n'est-ce pas, pour aborder un peu la question d'infrastructure. Pour la petite histoire, en 2018, nous étions au CIAO pour la 27e édition, je crois, du CIAO. Et pendant les 10 jours d'édition, deux fois, il y a eu pluie. Mais je vous assure, si c'était ici et que pendant les 10 jours d'édition, là, il y a eu deux fois pluie, ça allait être la catastrophe. Le SAFEM allait peut-être même disparaître. Et pour vous dire que, à faire des questions d'infrastructure là, nous sommes à un niveau vraiment très embryonnaire. Et mon frère l'a rappelé, et je crois que les autorités doivent prendre des dispositions, même s'il faut trouver un site au niveau national, pour que les différents événements qui s'éteignent puissent se succéder sur le même site-là. Vraiment, il faut qu'on ait un site. Il faut avoir ce site pour les grands événements. C'est extrêmement important. Parce qu'un salon sans pavillon, c'est vraiment un problème. Pour revenir à cette question d'insécurité, moi, je pense que cette affaire d'insécurité, c'est pas le Niger seulement. C'est devenu même mondial. Est-ce que, à cause de l'insécurité, nous devrons nous laisser abattre? Moi, j'ai dit que non. Nous devrons continuer à organiser nos événements. Nous avons confiance parfaitement en nos forces de défense et de sécurité. Nous savons qu'ils ont l'expérience, ils ont la bravoure, ils ont le courage pour sécuriser nos événements. Et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ça fait 19 ans. En tout cas, il n'y a jamais eu un problème d'insécurité sur un événement quelconque. En tout cas, moi, à ma connaissance, je ne connais pas. Pour vous dire que l'insécurité, elle est là, elle est réelle, mais ça ne devrait pas nous freiner. Nous allons continuer à organiser. Quitte maintenant, à qui des droits dépendent les dispositions nécessaires et qui s'imposent pour faire en sorte que les événements réussissent. Si on devrait tenir compte d'insécurité, même la fête du 18 décembre ne devrait pas se tenir. Vous avez vu ce qu'il y a comme monde là-bas pour vous dire que non, on doit avancer, ne pas minimiser l'insécurité, mais prendre des dispositions, comme je l'ai dit, qui s'imposent et continuer à organiser nos événements comme il le faut.
Salim Zangina, est-ce que le contexte financier n'est pas un frein ou un obstacle dans l'organisation de ces grands événements au Niger?
Bien entendu. Effectivement, c'est lorsque vous faites le budget d'un événement et que bon, vous aboutissez sur 15 millions, 20 millions, bon, il y a d'abord, c'est vrai, les prestataires que vous devez forcément donc payer, vous avez les emplois temporaires dont j'ai parlé, qu'il faut aussi nos jeunes frères qu'il faut payer. Après, l'agence aussi, après un tel effort, devrait quand même pouvoir aussi tirer également son gain. Donc lorsque vous faites l'addition de tout cela, vous vous retrouvez avec une vingtaine de millions, ce n'est pas évident. Parce qu'il faut d'abord aller effectivement taper à la porte du ministère de tutelle pour lui demander ce qu'il peut faire. Et je l'ai dit aussi, ce n'est pas une question de que le ministère vous donne de l'argent, puisque le ministère n'a pas de ligne budgétaire à cet effet-là, normalement. Mais le ministère détient un atout, qui est l'influence. Le ministère peut influencer pour que vous ayez donc effectivement un appui financier par rapport à l'événement. Ensuite, il faut aller vers les sociétés. Et la grande difficulté que vous rencontrez quand vous arrivez, par exemple, dans une société, d'abord, vous déposez le dossier de demande de financement. Ce dossier-là, quand vous le déposez, bien souvent, les chargés de communication ou des relations publiques qui devraient normalement étudier ce genre de dossier, bon, bien souvent, votre dossier se retrouve dans le tiroir sans même avoir été analysé. Ça veut dire que la personne qui est normalement chargée d'étudier ça, peut-être de remonter chez le directeur général pour lui dire « Monsieur le directeur général, bon, moi je tiens une mine d'or qui pourrait être un atout pour notre image. » Cette personne-là balance le dossier dans le tiroir. Et puis bon, il n'y a même pas de retour, parce que le minimum veut que quand vous déposez une demande de financement auprès d'une société, c'est que cette société-là vous réponde pour vous dire au moins que bon, nous ne donnons pas une suite favorable à votre requête. Il y a aujourd'hui des chancelleries, la plupart d'ailleurs des chancelleries ou des institutions internationales vous répondent. L'Union européenne systématiquement vous répond, la coopération suisse vous répond. Mais lorsque vous prenez nos sociétés d'État, nos sociétés privées, mais il y a un problème. Ça veut dire que quand vous leur envoyez la lettre, eh bien, à ce moment-là, il faut bien serrer même votre ceinture en tant que comité. Parce qu'il va falloir encore prendre votre bâton de pèlerin pour aller les trouver, cette société, aller les trouver chez elle pour les convaincre. Et quand vous arrivez, vous demandez où se trouve la lettre qu'on a envoyée, on cherche dans le parapheur, parfois on ne le trouve même pas. On te dit que oui, on a bien reçu, mais on ne sait pas là où est ta lettre. Donc il faut repartir, réécrire la lettre, ramener. Comme maintenant, on arrive à le transférer à quelqu'un, vous arrivez chez la personne, c'est comme pour ma lettre, il faut qu'elle vous déballe toute une pile de dossiers, qu'elle retrouve votre dossier, et elle n'est même pas au courant de ce que tu as écrit. C'est devant toi qu'elle va dire, ah d'accord, ah oui, c'est intéressant. Bon, ok, bon, attends, viens avec moi, on va monter. Ça veut dire que vous avez perdu tout ce temps-là en attendant une réponse, alors que la personne n'a même pas pris connaissance du dossier.
Mahamadou Yakouba, quelles sont vos recommandations pour que le Niger puisse tirer un grand profit à travers l'organisation des grands événements?
Nous avons deux recommandations principales. Nous l'avons dit dans le débat, mais pour peut-être synthétiser, ces deux recommandations-là se résument, un, à la mise à disposition d'un site d'exposition moderne, que ça soit à la disposition du SAFEM, que ça soit à la disposition du SANIT. Je l'ai dit, je le répète, pour nous aujourd'hui, il est extrêmement important et nécessaire, sinon indispensable, d'avoir un site d'exposition ou un parc d'exposition au niveau de Niamey. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, mon frère l'a dit, c'est vraiment le financement de ces événements-là. Le SAFEM a commencé avec 200 millions d'appui pour l'édition. Lorsque le SAFEM, en tout cas dans les années 2005-2007, on arrivait à obtenir jusqu'à 200 millions d'appui de l'État pour organiser l'édition. À la dernière édition, nous avons réussi moins de 86 millions. Alors que le budget du SAFEM tournait autour de 220 millions. Ça veut dire que nous avons eu un gap de 135 millions et quelques. Alors,
c'est un recul. Hein?
C'est un recul. Pendant que le SAFEM grandisse, son budget recule. Ça, c'est une recommandation, c'est un défi, je l'ai dit tout à l'heure, pas un défi que nous, en tant que SAFEM, nous ne pouvons pas relever ces défis-là. Nous sommes obligés de nous retourner ou de nous tourner vers nos autorités. C'est vrai, pour les SAFEM, notre chance, je l'ai dit et en toute honnêteté, c'est cette volonté politique que nous avons. Nous sentons chaque jour
le soutien de l'État.
Chaque matin, nous sentons ce soutien de l'État. Nous le sentons et nous le voyons même, nous le touchons parfois, ce soutien-là. Nous avons le soutien de notre marraine, la première dame, Hadji Aissata. Elle est toujours là, présente avec nous. Chaque fois qu'elle est sollicitée, elle est là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque part quelque chose qui est plus puissante que tout ce que j'ai dit. Même le Premier ministre, à un certain moment, avait eu en tout cas l'occasion d'intervenir par rapport à cette affaire de site d'exposition. Mais je ne sais pas concrètement pourquoi ça bloque. Si le SAFEM dispose de son site d'exposition, je vous assure, les 85 millions là pouvaient suffire pour organiser l'édition du SAFEM. Parce que nous savons comment faire avec notre site. Si nous disposons d'un site, nous savons comment faire pour avoir de l'argent. Le problème qui se pose par rapport à ce site-là, tout à l'heure, je disais que nous avons le soutien de l'État, nous le voyons. Parce que à chaque fois qu'il y a des discussions budgétaires, le ministère du Plan et le ministère des Finances sont toujours d'accord. Et je le rappelle, même dans le programme de Renaissance Acte 2, dans le chapitre 8.3, il y a cette affaire de site de parc d'exposition. C'est pourquoi je dis que je ne comprends pas. Même le président de la République, son Excellence Issouf Mahamadou, a mis dans son programme de Renaissance, chapitre 8, j'ai dit, point 3, vous allez regarder, il y a la mise à disposition, la création de ce parc d'exposition. Aujourd'hui, ça fait 7 ans au moins, ce programme. Jusqu'à aujourd'hui encore, le site la traîne. Je ne sais pas pourquoi.
Salim Zangina, quelles sont vos recommandations pour que le Niger puisse tirer un grand profit à travers l'organisation des grands événements?
Alors, je vais compléter mon grand frère en disant déjà,
rapidement.
Voilà, le site déjà, c'est clair. Le site du SAFEM pourrait servir pour le SANID, pourrait servir pour d'autres. Donc, un site commun où nous allons tous venir. Ensuite aussi, moi, je préconise également la création d'un fonds de financement de l'entrepreneuriat culturel et des grands événements. Il faut qu'un fonds soit créé. On ne dit pas qu'on donne l'argent cadeau. Ce sont des événements porteurs qui génèrent des ressources. Mais souvent, ce qu'on a, soit le partenaire qui accorde le financement met du temps avant de décaisser. Donc ça ralentit l'événement, la bonne organisation de l'événement. Ce fonds-là pourrait, une partie, c'est vrai, soutenir l'événement et une partie préfinancer l'événement. C'est-à-dire que si un événement fait 200 millions, les 100 millions pourraient être le soutien à l'événement et les autres 100 millions, on préfinance. C'est-à-dire que les promoteurs ou bien le comité devra rembourser à travers les sponsoring en prenant leur temps. Parce que vous ne pouvez pas avoir fini l'événement aujourd'hui et dès le lendemain, vous avez les prestataires qui vous demandent de payer les factures. Alors que vous-même, vous dépendez des sponsors qui ont tout un circuit que votre facture devra suivre. Donc, l'État devrait créer un fonds vraiment de financement de l'entrepreneuriat culturel et des grands événements. Et ce fonds-là, après étude des dossiers, en tout cas des grands événements qui sont valables, pourrait donc financer ces grands événements-là. Je vais juste terminer en disant, par exemple, je prends le cas du FIMA, qui s'est tenu aujourd'hui au Maroc. Je n'y étais pas, mais les échos que j'ai eus, c'est l'une des éditions du FIMA les mieux organisées. Mais vous pensez que les Marocains ont accueilli le FIMA à cause des beaux yeux de Al-Fadi? Mais non, c'est parce que le roi et son gouvernement ont perçu l'intérêt qu'il y avait à recevoir le FIMA sur leur terre, à Dala là-bas, et qu'ils savaient que ce FIMA-là serait une vitrine pour le Maroc. Parce que le nombre de participants au FIMA allait forcément promouvoir l'image du Maroc.
Nos invités ont surtout mis l'accent sur le soutien des plus hautes autorités afin que le Niger puisse tirer un grand profit dans l'organisation des grands événements. Et nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Mahamadou Yakouba, chef du département organisation du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, et Salim Zangina, promoteur du Salon national d'information sur le développement au Niger, SANIDA. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.